citoyenne des cieux. Alors, nous avons été sollicités durant le début de l'été plusieurs fois pour accomplir ce que l'on nomme communément notre devoir de citoyenne de la République française, c'est-à-dire aller voter pour élire nos représentants dans divers parlements ou assemblées. Alors nous pouvons bien sûr être heureux de vivre dans un pays où la population est régulièrement consultée pour choisir ceux ou celles qui vont la représenter et ainsi orienter la politique et les lois de ce pays selon la sensibilité d'une majorité d'électeurs. Nous pouvons facilement constater les limites d'un système assujetti à la nature humaine, soit empreint d'orgueil, de mépris pour celui qui ne partage pas votre point de vue, de violence verbale et j'en passe. Doit-on s'en étonner? Sûrement pas. Car qu'attendre de bon quand l'on a mis Dieu à la porte et que l'on a décrété que l'homme est naturellement bon et n'a pas besoin de se référer à son Créateur pour guider ses décisions? Il en résulte un sentiment de mécontentement et de frustration pour une grande majorité de nos concitoyens, qui s'expriment parfois et trop souvent par la violence. Nous sommes, il paraît, les champions des râleurs et des insatisfaits, nous Français. Mais ce n'est pas de ce triste constat dont je veux vous parler ce matin. Je souhaite aborder un sujet qui reste délicat mais si important. Qui sommes-nous, nous qui croyons et avons placé notre confiance en Jésus-Christ, en tant que participants à la vie de ce monde dans lequel nous sommes placés et devons vivre? Alors, revenons à ce que nous dit la parole. Nous lirons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 17, les versets 1 à 16. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Mais je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Cette prière de Jésus adressée à son Père nous concerne aussi aujourd'hui et précise notre position par rapport au monde dans lequel nous vivons. Nous comprenons que nos concitoyens qui placent leurs espoirs dans une amélioration de leurs conditions de vie, pour beaucoup liées à leur enrichissement personnel, soient forcément déçus par la différence entre les promesses de campagne et la réalité vécue. Mais nous ne plaçons pas notre espérance dans ces promesses trompeuses qui ne servent qu'à faire élire les assoiffés de pouvoir par les naïfs qui ont cru leurs vaines paroles. Celui qui nous promet ne peut se renier, ni revenir sur son programme. Il est la vérité, la justice et la vie. Nous voyons dans le passage que nous avons lu que Jésus prie pour les siens, ceux que le Père lui a confiés. Mais il ajoute « Je ne te prie pas pour le monde ». Nous pouvons comprendre par cette expression qu'il différencie clairement les personnes du système, vu au travers du mot « le monde ». Dans ce moment qui précède son sacrifice, connaissant le violent traumatisme qui va toucher les siens, Jésus les remet entre les mains de son Père pour qu'ils soient gardés et protégés du monde. Est-ce que le monde dans lequel nous vivons est différent, s'est amélioré? Je vous laisse formuler la réponse. Il faudrait un optimisme aveugle pour le croire. Mais nous pouvons être rassurés. Celui qui a confié les siens à son Père l'a fait en nous englobant. Nous qui vivons 2000 ans plus tard, sa parole est la vérité. Pas de fausses promesses, pas de changement de cap en cours de route. Par contre, il nous appartient de définir clairement notre citoyenneté, de cap en cours de route. Nous sommes citoyens français seulement pour la plupart d'entre nous, ou bien possédons, comme dit Paul en Éphésiens, nous possédons d'abord une citoyenneté non inscrite sur nos documents officiels. Lisons ce que l'apôtre Paul en dit aux Éphésiens au chapitre 2, verset 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Les chrétiens d'Éphèse, qui venaient d'horizons divers, juifs de la diaspora, païens d'origine grecque ou romaine, avaient acquis une nouvelle citoyenneté, celle de saints et de gens de la maison de Dieu, ou comme nous le traduit la version Semeur, concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu. Donc, nous voilà avec un nouveau passeport. Il est infiniment précieux car il nous ouvre l'accès à l'éternité glorieuse dans la présence de Christ au sein de la maison du Père. Sa validité est éternelle, pas de 10 ans. Son émission comporte un visa pour le ciel, rien de moins, chers amis. Souvenons-nous de ce que nous dit l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas. Pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Notre nouveau passeport est plus que biométrique. Il est totalement sécurisé, pas de risque d'usurpation. Nous pouvons nous réjouir en effet, car nos noms sont inscrits dans le registre du ciel. L'acquisition de cette nouvelle citoyenneté ne réjouit pas l'ennemi de nos âmes, Satan, qui depuis la chute en Éden continue à égarer les humains et ainsi à les tenir éloignés de leur Créateur. Son message initial a été de mettre en doute la vérité énoncée par Dieu. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est à cette affirmation que le diable va s'attaquer. Et en posant cette question, Dieu a-t-il réellement dit ? Il la pose à Ève. Son but est de créer le doute et la confusion dans l'esprit des humains. A-t-il changé? Je vous laisse apporter la réponse. Non, en effet, il continue son œuvre de mensonge et de mort, mort éternelle loin de Dieu. Alors nous comprenons l'avertissement de Jésus à ses disciples dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'ennemi ne va pas rester indifférent à notre changement de statut de citoyenneté. Il va mettre en œuvre toutes sortes d'actions contre les citoyens des cieux. La persécution contre les croyants, qui concerne 400 millions de nos frères et sœurs dans le monde, d'après ce que nous en dit Porte Ouverte, en est la preuve très actuelle. Pour nous qui vivons dans des pays démocratiques, il a d'autres moyens à sa disposition, en particulier de m'inciter à conserver mon passeport d'origine par l'attrait que tout ce qui est matériel et terrestre de ma vie dans ce monde peut exercer sur moi. Nous nous souvenons du jeune homme qui a croisé la route de Jésus et qui, en réponse à la question « Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» se voit répondre qu'il n'y a rien à faire, mais qu'il doit renoncer à tous ses biens et suivre le Seigneur. Nous connaissons la fin de cet échange. Il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Même si je ne possède pas de grands biens, si je ne suis pas assujetti à l'ISF, je suis si facilement attaché à mes affaires terrestres, à mon statut social, professionnel, etc. Et pourtant, tout cela n'est que très éphémère. Et nous devons le considérer pour ce qu'il est, temporaire et fragile. Comparé à notre position comme Jean de la maison de Dieu, héritier d'une éternité de gloire et de bonheur auprès de Christ. Pouvons-nous être des binationaux, comme cela est possible pour bien de nos concitoyens, et pour mes petites filles en particulier? Je crois que cela nous demande de choisir quelle est notre patrie, celle qui nous accueille le jour où nous mettons notre confiance dans l'œuvre rédemptrice de Christ, ou bien celle dans laquelle nous sommes nés et où nous avons compris que le péché nous amène vers la mort et l'éloignement éternel d'avec Dieu. La nationalité française, nous l'avons eue par naissance pour la plupart d'entre nous, d'autres par le mariage avec un conjoint français ou peut-être par choix après avoir vécu dans notre pays. C'est bien cette dernière possibilité seule qui nous amène dans la position de citoyen des cieux, c'est notre choix personnel. L'on n'en hérite pas, il n'y a pas de droit du sol ou du sang pour l'acquérir automatiquement. Nous trouvons un bel exemple de choix délibéré dans l'Ancien Testament en la personne de Ruth. La Moabite, elle choisit de suivre sa belle-mère Naomi pour son retour vers Bethléem. C'est un choix courageux qui fait suite à une série d'épreuves. Le décès de son beau-père, suivi de ceux de son mari et de son beau-frère. Sa belle-mère l'incite, elle et sa belle-sœur, à retourner dans leur famille moabite, elle qui se dit affligée, car la main de l'Éternel s'est étendue contre elle. Quelle opinion Ruth peut-elle se faire de ce Dieu punitif? Mais sa décision est irrévocable. Nous lisons dans le livre de Ruth, au chapitre 1er, au verset 16. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Nous connaissons la suite de ce choix résolu. Ruth va entrer pleinement dans le plan divin en devenant une bénédiction pour sa belle-mère. Sa rencontre et son mariage avec Boaz la placent dans la généalogie de David et de Jésus. Elle n'a pas regardé en arrière à son passé, à sa famille moabite, mais s'est saisie d'une part bénie avec confiance dans le Dieu de Naomi, l'Éternel des armées. Elle est entrée pleinement dans l'héritage promis par Dieu à son peuple élu. Nous savons l'importance attachée au sein d'Israël à la généalogie. L'on connaît ses racines. Les anciens de la ville de Bethléem adressent leur bénédiction à cette union que la loi condamnait. Tu ne feras pas d'union avec les Moabites. Mais ils ont compris que Ruth n'est plus Moabite, mais qu'elle a fait le choix d'une nouvelle patrie et d'une nouvelle citoyenneté. Nous lisons au chapitre 4 et au verset 11 du livre de Ruth. « Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Éphrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérets qui fut enfantée à Juda par Tamar. Mais une fois que l'on a acquis cette nouvelle nationalité, nous continuons à vivre au milieu du monde. Comment allons-nous nous comporter? Quelle relation établir avec nos semblables avec qui nous travaillons, commerçons et vivons au quotidien? Jésus a dit « Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde ». Comment mettre en pratique cela concrètement dans notre vie quotidienne? Je le dis pour moi, c'est un exercice de chaque jour qui ne peut se faire qu'en nous rappelant ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome dans son épître au chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » La version Semeur traduit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. » Le monde du XXIe siècle possède des outils très puissants pour nous modeler au travers des médias et particulièrement de l'image. Il veut nous faire passer pour normal des choses contre nature condamnées par Dieu et sa parole. Le poison est instillé en continu. Cela me fait penser à celui qui est placé dans la marmite d'eau froide que l'on met à chauffer lentement. Il sera cuit vivant sans s'en être rendu compte. Un homme de foi de la première alliance reste un modèle pour chaque croyant. Il s'agit d'Abraham, qui est aussi le père de tous les croyants au sens spirituel du terme. L'Éternel l'a choisi pour devenir le père d'un peuple mis à part, au travers duquel seront bénies toutes les nations. La première qualité que nous trouvons chez lui, qui s'appelle encore Abraham, c'est l'obéissance. Sur l'ordre divin, il quitte son lieu de résidence ainsi que sa famille pour aller vers une destination inconnue. La promesse divine de possession du pays est pour sa descendance, non pour lui immédiatement. Il va parcourir le pays comme un étranger, un nomade avec tout son bétail. Ce bétail très important va provoquer la séparation d'avec son neveu Lot, qui est parti avec lui. Nous connaissons le choix de Lot, qui a préféré la plaine du Jourdain, plus verdoyante. Mais dans cette plaine, deux villes, Sodome et Gomorre, sont des endroits d'une perversité totale, selon ce qu'en juge l'Éternel. Lot s'est mis dans la marmite et sera sauvé in extremis avec ses deux filles lors de la destruction totale des deux villes par une pluie de soufre enflammée. Sa femme a sûrement eu des regrets de ce qu'elle laissait à Sodome, malgré l'avertissement des anges, et sera transformée en statue de sel. Abraham a lui choisi la montagne et s'est comporté comme un étranger au milieu de ce pays que Dieu lui avait promis, non pour lui tout de suite, mais pour sa descendance. Il faudra près de 6 siècles pour que Josué commence la conquête du pays. Nous voyons l'attitude d'Abraham lors de la mort de Sarah, qui, je crois, nous donne un exemple de ce que doit être la position du croyant dans un monde sans Dieu. Elle meurt alors qu'il se trouve près de Kiryat Arba, ville qui existe toujours sous le nom de Hébron, ville des Hittites. Il doit donc trouver un lieu pour l'enterrer et va trouver les habitants du pays pour acheter une propriété. Il se présente « Je ne suis qu'un étranger chez vous ». Son témoignage a fortement impressionné les Hittites qui lui font cette réponse en Genèse chapitre 23 verset 6. « Écoute-nous, mon Seigneur, tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Enterre ton mort dans celui de nos sépulcres que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Ils veulent lui offrir un terrain et un tombeau. Nous trouvons la réponse d'Abraham au verset 13. « Écoute-moi, je te prie, je donne le prix du champ, accepte-le de moi, et j'y enterrerai mon mort. » Et Éphron répondit à Abraham et lui dit, « Mon Seigneur, écoute-moi, une terre de 400 sicles d'argent, qu'est-ce que cela entre moi et toi? Enterre ton mort. » Abraham comprit Éphron, et Abraham pesa à Éphron l'argent qu'il avait dit en présence des fils de Heth, 400 sicles d'argent ayant cours chez le marchand. Quel exemple nous laisse le patriarche ici? Il est connu comme un prince de Dieu, et il tient à ne rien devoir aux Hittites. Il va donc acquérir pour la somme juste la caverne de Macpéla et le champ attenant pour 400 pièces d'argent. Deux points sont mis en avant pour moi dans ce récit, le témoignage et la justice. Il se présente comme un étranger, lui qui a une relation avec le seul vrai Dieu, mais vit au milieu de polythéistes idolâtres. Il ne doit pas se trouver compromis en étant redevable à quiconque. Par contre, le jugement que portent les Hittites sur sa conduite est extrêmement flatteur. Il se comporte comme un représentant de l'Éternel, son ambassadeur. C'est un homme qui, par son témoignage, force le respect et l'estime. Sa conduite est cohérente avec l'appel divin qu'il a mis à part pour donner naissance au peuple choisi et béni par l'Éternel. Étranger, vivant au milieu des peuples autochtones du pays avec des relations basées sur la justice et le respect de ces derniers, sa proximité avec Dieu guide sa conduite dans cette époque où la loi n'a pas été donnée et ne le sera que plusieurs siècles plus tard. Nous voyons le contraste induit par les choix et la position morale entre Lot et Abraham. Je ne peux que penser aussi à Daniel, un membre de l'aristocratie juive de Jérusalem, emmené en exil à Babylone par le roi Nebuchadnezzar suite à sa victoire sur le roi Joachim. Daniel et ses trois compagnons de captivité sont choisis pour être enseignés dans la culture de Babylone, au vu de leurs qualités physiques et mentales, et ainsi se trouver au service de l'empire qui les a déportés. Position délicate qui fait d'eux des collaborateurs au sens péjoratif du terme. Mais ils sont en position de vaincus. Il leur reste le choix de ne pas se comporter comme leurs vainqueurs dans le domaine privé. Ils ont reçu de nouveaux noms, qui sont une référence en plus au Dieu de ce peuple idolâtre. Quelle humiliation quand nous connaissons l'importance que les Juifs attachent aux prénoms et à leur signification. Mais c'est la nourriture et le vin qui leur sont fournis qui posent le premier cas de conscience pour ces quatre jeunes hommes. En effet, le peuple avait la loi qui précisait ce qui pouvait être mangé, quels animaux et comment ils devaient être abattus. Le vin royal pose aussi un problème. Ils vont donc choisir de ne manger que des légumes et boire de l'eau. C'est avec la complicité du chef des eunuques qu'ils vont prouver que ce régime les maintient en bonne santé. Puis viendra le moment où un décret royal imposera d'adorer une statue monumentale sous peine d'être brûlé vif. Devant cette imposition, plus de subterfuge possible. Leur foi va être mise à l'épreuve. Le roi leur pose cette question. « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Leur réponse est sans ambiguïté. « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main au roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nous connaissons tous la suite. La fournaise est le miracle qui va démontrer la puissance divine devant tous les grands du royaume de Nebuchadnezzar. Les compagnons de Daniel ont démontré que même dans la position d'exilé au sein du peuple vainqueur, ils restaient des serviteurs du seul vrai Dieu, pas de compromission avec leur conscience. C'est cet état d'esprit et de cœur que l'Éternel va honorer en leur accordant ce que nous trouvons au verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Ils sont des ambassadeurs du seul vrai Dieu. Ce que le monarque orgueilleux sera obligé de reconnaître après avoir été abaissé à la position d'un animal devant brouter l'herbe. Le dernier dont je voudrais parler ce matin est Jésus lui-même. Il va naître, donc intégrer son humanité dans un pays conquis par l'Empire romain avec les contraintes liées à cette domination. Nous savons que l'Empire se finançait par l'impôt prélevé sur toutes les provinces annexées et qu'il faisait peser lourdement son joug sur ses peuples avec la complicité de pouvoirs locaux à sa solde. En Israël, c'est le roi Hérode le Grand qui règne sur la Judée. Lors du ministère public de Jésus, c'est le préfet Ponce Pilate qui administre directement la Judée et a donc tout pouvoir sur le peuple. Les pharisiens, voulant tendre un piège à Jésus, lui demandent si lui qui enseigne la voie de Dieu selon la vérité, on voit un peu leur hypocrisie, mais pense qu'il est juste de payer l'impôt à l'empereur. Il connaît leurs intentions et va faire une réponse qui va les confondre. Il leur demande ce qui est représenté sur la monnaie en usage. C'est César qui figure sur ces pièces. Donc, rendez à César ce qui lui appartient et à Dieu ce qui lui revient. Pas de mélange. Même le Créateur de toutes choses indique la séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir éternel et supérieur. Il acquittera lui-même l'impôt pour le temple quand la question sera posée à Pierre par ceux qu'il collecte à Capernaum en lui envoyant ce dernier à la pêche. Pierre est un pêcheur, alors c'est pour lui assez simple. Mais avec consigne, le premier poisson que tu attraperas aura un stater dans la bouche, va et paye pour toi et moi. Alors, pour nous, vivant au XXIe siècle, quel doit être notre positionnement par rapport au monde dans lequel Dieu nous demande de vivre comme ses témoins? Je crois que nous devons toujours garder comme ligne de conduite ce que Jésus dit de ses disciples dans sa prière avant son arrestation et son jugement. Lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 17, verset 14. « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Alors, est-ce que cette prière est dépassée et que le monde de 2024 est différent de celui de l'an 30? Je ne pense pas. Nous voyons chaque jour combien l'ennemi agit contre la vérité, même au travers des pouvoirs qui dirigent nos pays. Si vous avez regardé la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques censée mettre en avant notre pays, notre culture et transmettre ainsi nos valeurs, je vous laisse en tirer les conclusions. Souvenons-nous du choix que l'humanité a fait lors du procès du Messie. Ôte-le, nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Donc celui qui a été choisi n'est autre que l'ennemi Satan. Ce qui m'amène à la conclusion suivante. Nous devons être porteurs de cette vérité qui a été rejetée, mais sans nous illusionner sur notre pouvoir de changer le monde de l'intérieur en l'intégrant. Car nous allons nous trouver très rapidement en contradiction avec la vérité, comme Lot s'est trouvé à Sodome, obligé de fuir la destruction, même si le Nouveau Testament le qualifie de juste. Ce qui ne nous dispense pas d'être des citoyens respectueux des autorités en place, mais exprimant nos convictions quand la parole est attaquée notre Seigneur et notre Dieu, blasphémé, quand le mal est mis en avant. Gardons toujours à l'esprit que nous ne sommes pas du monde. Nous marchons sur une ligne de crête, mais nous sommes encordés avec celui qui a vaincu le monde et son prince. Il ne nous laissera pas dévisser si tant est que nous voulons suivre le sentier parfois difficile, mais avec lui comme guide. L'issue en est bénie, glorieuse et éternelle. Amen.